Chapitre 21. Les deux amis n'échangèrent presque pas une parole, jusqu'au moment où ils arrivèrent à la demeure de Fédote. Bazarov n'était pas satisfait de lui-même, et Arkad était mécontent de son ami. Il ressentait en outre cette tristesse sans motif, qui n'est connue que des jeunes gens à leur premier début dans la vie. Le cocher ayant changé de chevaux, remonta sur le siège et demanda s'il fallait prendre à droite ou à gauche. Arkad tressaillit. Le chemin qui s'étendait à leur droite conduisait à la ville, et de là à la campagne de son père. Celui de gauche menait chez Madame Odintsov. Il regarda Bazarov. « Eugène, lui dit-il, à gauche ?» Bazarov se détourna. « Quelle bêtise !» répondit-il entre ses dents. « Je sais bien que c'est une bêtise, répondit Arkad. Mais qu'importe, ce ne sera pas la première que nous faisons. » Bazarov abaissa la visière de sa casquette. « Fais comme tu voudras, » finit-il par lui répondre. « Prends à gauche !» cria Arkad au cocher. Le tarantas roula du côté de Nikolskoïe. Mais les deux amis, s'étant décidés à faire une bêtise, gardèrent un silence encore plus obstiné qu'auparavant. Ils paraissaient presque en colère. À la manière dont le maître d'hôtel de Madame Odintsov les reçut sur l'escalier de la maison, les jeunes voyageurs reconnurent bientôt qu'ils avaient agi inconsidérément en cédant à ce caprice. On ne les attendait nullement. Il était facile de le voir. Invités à passer dans le salon, ils y demeurèrent assez longtemps, faisant triste figure. Madame Odintsov parut enfin. Elle les aborda avec son amabilité ordinaire, mais parut surprise de leur prompt retour. Elle n'était guère charmée de les revoir, à en juger par la lenteur de ses paroles et de tous ses mouvements. Ils s'empressèrent de lui apprendre que c'était en passant qu'ils étaient venus, et que dans 2 ou 3 heures ils allaient repartir pour la ville. Elle se borna à pousser une petite exclamation, chargea Arkad de saluer son père de sa part, et envoya prévenir sa tante. La princesse arriva tout endormie, ce qui ajoutait encore à l'expression habituellement méchante de sa vieille figure jaune et flétrie. Katia était indisposée et ne quittait pas sa chambre. Arkad comprit en ce moment qu'il désirait voir Katia tout autant que la maîtresse de la maison. 4 heures passèrent à causer de choses indifférentes. Madame Odintsov parlait et écoutait sans sourire. Au moment du départ seulement, son ancienne affabilité sembla se ranimer. « Vous devez me trouver bien morose, leur dit-elle, mais n'y faites pas attention, et venez me voir tous les deux, entendez-vous bien, dans quelque temps. » Bazarov et Arkad ne lui répondirent qu'en s'inclinant, remontèrent en voiture et se firent conduire directement à Marino, où ils arrivèrent sans encombre le lendemain soir. Pendant la route, ni l'un ni l'autre ne prononça le nom de Madame Odintsov. Bazarov garda même presque constamment le silence et tint les yeux fixés obstinément au loin. On fut bien content de les voir à Marino. La longue absence de son fils commençait à inquiéter Kirsanov. Il poussa un cri, sauta sur son divan et se mit à agiter les pieds lorsque Fenichka, entrant dans la chambre, les yeux animés par la joie, lui annonça les jeunes seigneurs. Paul lui-même éprouva une agréable surprise et sourit d'un air protecteur en serrant la main aux nouveaux arrivés. On se mit à causer du voyage. Arkad était celui qui parlait le plus, surtout à souper, et le repas se prolongea bien après minuit. Kirsanov avait fait apporter plusieurs bouteilles de porter qui venaient de Moscou, et il le trouva tellement à son goût que ses joues en devinrent pourpres et qu'il ne cessait de rire, d'un rire à la fois enfantin et nerveux. Cette bonne humeur générale gagna jusqu'au domestique. Dunyasha ne faisait qu'aller et venir comme une folle en tirant les portes avec force derrière elle. Et Pierre s'essayait encore vainement, à 2 heures du matin, à jouer sur la guitare une valse cosaque. Les cordes de l'instrument avaient des vibrations plaintives et agréables dans le calme de la campagne et de la nuit. Mais le valet de chambre civilisé ne put jamais aller au-delà de la fioriture préliminaire. La nature lui avait refusé le talent musical comme tout autre talent. Cependant, les habitants de Marino n'étaient pas tout à fait exempts de soucis, et le pauvre Kirsanov en avait sa bonne part. La ferme lui donnait chaque jour plus d'ennuis, des ennuis misérables et mesquins. Les ouvriers embauchés causaient des embarras vraiment insupportables. Les uns exigeaient une augmentation et demandaient leur compte, D'autres partaient après avoir reçu une avance sur leur paye. Les chevaux tombaient malades, les harnais étaient à tout instant mis hors de service. On faisait mal les travaux. Une machine à battre le blé que l'on avait fait venir de Moscou se trouva trop lourde pour être utilisée. Un blutoir fut brisé le jour même où on l'essaya. La moitié de la basse-cour brûla grâce à une vieille servante à demi aveugle qui était allée par un grand vent exorciser sa vache malade avec un charbon allumé, et cette même vieille assurait plus tard que le malheur avait eu lieu parce que le maître s'était mêlé de faire préparer les fromages et autres nouveautés du même genre. L'intendant fut pris subitement de paresse et se mit à engraisser, comme le fait tout russe qui vient à être nourri aux frais d'un autre. Son activité se bornait à jeter une pierre à un petit cochon qui passait ou à menacer un enfant à moitié nu dès qu'il apercevait Kirsanov. Il dormait presque tout le reste du temps. Les paysans mis à la redevance ne payaient rien et volaient du bois. Les gardiens arrêtaient souvent la nuit, et non sans rencontrer une vive résistance, des chevaux qui paissaient dans les prés de la ferme. Kirsanov avait fixé une amende pour ce délit, mais la plupart du temps les bêtes prises étaient rendues à leurs propriétaires, après avoir passé quelques jours dans les écuries du maître. Pour mettre le comble à ces tracas, les paysans commencèrent à se quereller entre eux. Des frères demandaient le partage, leurs femmes ne pouvant plus vivre sous le même toit. Des batailles avaient eu lieu à tout instant dans le village. Une foule de paysans se réunissait subitement, et comme s'ils avaient obéi à un mot d'ordre, devant le bureau de l'intendant, se rendaient de là chez le maître, la figure meurtrie de coups de poing, souvent en état d'ivresse, et demandaient à grands cris justice. Au milieu du tumulte, les lamentations aiguës et les sanglots des femmes se mêlaient aux vociférations, aux injures des hommes. Il fallait juger le différent, élever la voix jusqu'à s'enrouer, tout en sachant d'avance que ses efforts seraient inutiles. On manquait de bras pour la moisson. Un autre Novorets du voisinage, dont les traits honnêtes inspiraient la plus grande confiance et qui s'était engagé à fournir des travailleurs au prix de 2 roubles la dessiatine, manqua à sa parole de la façon la plus scandaleuse. Les paysannes du village exigeaient une main-d'œuvre inouïe, et en attendant, les blés commençaient à s'égrener. Même tribulation pour la récolte des foins. Et comme si ces ennuis ne suffisaient point, la chambre des tutelles réclamait avec menace le paiement immédiat des intérêts échus. « Je suis à bout de force !» s'écria plus d'une fois Nicolas Petrovitch. « Impossible de corriger ces gens-là moi-même. » Et mes principes ne me permettent pas de recourir à la police. Pourtant, ils ne feront rien sans la crainte des châtiments. « du calme !» lui répondait Paul Petrovitch, et tout en faisant cette recommandation, il paraissait très mécontent lui-même et se tirait la moustache. Bazarov restait étranger à ses misères, et d'ailleurs sa position dans la maison ne lui permettait guère d'agir autrement. Le lendemain de son retour à Marino, il avait repris ses recherches sur les grenouilles, sur les infusoires, sur certaines combinaisons chimiques, et était tout absorbé dans ses travaux. Quant à Arcade, il croyait de son devoir, si ce n'est de venir en aide à son père, du moins de paraître tout disposé à le faire. Il l'écoutait patiemment, et se hasarda un jour à lui donner un conseil, non point avec l'espoir de le voir adopté, mais afin de manifester sa bonne volonté. Les affaires domestiques ne lui inspiraient aucun éloignement. Il se promettait même avec plaisir de se vouer un jour à l'agronomie, mais pour le moment, il avait d'autres idées en tête. À son grand étonnement, Arcade pensait continuellement à Nikolskoïe. Autrefois, il aurait haussé les épaules si quelqu'un lui avait dit qu'il pourrait s'ennuyer sous le même toit que Bazarov, et sous quel toit encore? Sous le toit paternel. Mais il s'y ennuyait réellement, et aurait voulu être loin. Il s'imagina de faire de longues promenades, mais cela ne lui fut d'aucun secours. Causant un jour avec son père, il apprit que celui-ci avait gardé plusieurs lettres assez intéressantes, adressées jadis à sa femme par la mère de Madame Odintsov, et il fit tant d'instances pour les avoir que Nicolas Petrovitch les retrouva, non sans peine, au milieu de ses vieux papiers, et les lui remit. Entré en possession de ses lettres à demi effacées, il se sentit plus calme, comme s'il eût trouvé enfin le but vers lequel il devait tendre. « Je vous le dis à tous les deux, » a-t-elle ajouté d'elle-même. Cette pensée ne lui sortait pas de la tête. « J'irai, J'irai ? Oui, le diable m'emporte. » Mais il se rappelait la dernière visite à Nicole Scoyer, la froideur de la réception, et sa timidité reprenait le dessus. Cependant, le « qui sait » de la jeunesse, le secret désir de mettre la fortune à l'épreuve, d'essayer ses forces sans témoin, sans aucun patronage, finit par l'emporter. 10 jours ne s'étaient pas encore passés depuis le retour des jeunes gens à Marino, que sous le prétexte d'étudier l'organisation des écoles du dimanche, ils partaient de nouveau pour la ville et de là pour Nicole Scoyer. Pressant continuellement le cocher d'aller plus vite, il semblait un jeune officier courant au combat. La joie, la peur et l'impatience se partageaient son cœur. « Avant tout, il ne faut pas réfléchir », se répétait-il sans cesse. Le cocher qui le conduisait était un paysan déluré qui s'arrêtait devant tous les cabarets et demandait « Est-ce qu'on ne tue pas le ver ?» Mais le ver tué, il remontait sur son siège et ne ménageait pas ses chevaux. Le toit élevé de la maison bien connue se montra enfin aux yeux d'Arcade. « Qu'est-ce que je fais là ?» se dit-il tout à coup, mais il n'y avait plus moyen de retourner. Les chevaux étaient lancés. Le cocher criait et sifflait pour soutenir leur ardeur. Déjà le petit pont de bois a retenti sous les fers de chevaux et sous les roues. Voici la longue allée de pins taillés en mur. Une robe rose se détache au milieu du sombre feuillage. Une jeune figure se montre sous la frange légère d'une ombrelle. Arcade a reconnu Katia, et elle l'a reconnu aussi. Il donne ordre au cocher d'arrêter les chevaux qui galopaient toujours, saute à terre et court à elle. « C'est vous ?» s'écria Katia, et elle rougit lentement. « Allons trouver ma sœur. Elle est là dans le jardin. Il lui sera très agréable de vous revoir. » Katia conduisit Arcade dans le jardin. La manière dont il l'avait rencontrée lui paraissait de bon augure. Il la retrouvait avec autant de joie que si elle avait été une de ses proches parentes. Tout était pour le mieux. Point de maître d'hôtel au geste solennel, point d'attente dans le salon. Il aperçut Madame Odinsoff au bout d'une allée. Elle lui tournait le dos et se retourna doucement au bruit de leurs pas. Arcade fut sur le point de perdre de nouveau contenance, mais les premières paroles qu'elle prononça le rassurèrent complètement. « Bonjour, fuyard, » dit-elle de sa voix égale et caressante, et elle s'avança vers lui en souriant et en clignant les yeux à cause du vent et du soleil. « Où l'as-tu trouvé, Katia ?»« Je vous apporte, » commença Arcade, « une chose à laquelle vous ne vous attendez guère. »« Vous vous êtes apporté vous-même, voilà l'essentiel. » Chapitre 22. Après avoir conduit Arcade jusqu'à sa voiture, avec des regrets ironiques et certains mots qui donnaient à entendre qu'il devinait le véritable but de son voyage, Bazarov se mit à vivre tout à fait à l'écart. Il semblait en proie à une fièvre de travail. Il ne se disputait plus avec Paul, celui-ci prenant des airs par trop aristocratiques dans ces circonstances et s'exprimant moins par des paroles que par des sons. Une fois seulement, Paul s'était lancé dans une discussion avec le nihiliste à propos des droits de la noblesse des provinces de la Baltique qui étaient à l'ordre du jour dans ce temps-là. Mais il s'arrêta tout à coup et dit avec une froide politesse « Au reste, nous ne nous entendrons jamais. Moi, du moins, je n'ai pas l'honneur de vous comprendre. » « Je n'en doute pas, » s'écria Bazarov. « L'homme peut tout comprendre, les ondulations de l'éther et les changements qui s'opèrent au soleil, mais il ne comprendra jamais qu'on puisse se moucher autrement qu'il ne le fait. »« Vous trouvez cela spirituel ?» reprit Paul, et il alla se placer à l'autre extrémité de la chambre. Cependant, il lui arriva de demander à Bazarov la permission d'assister à ses expériences. Paul approcha même une fois du microscope son visage lavé et parfumé avec les plus rares essences. Il s'agissait de voir un infusoir transparent avaler un atome verdâtre qu'il tournait et retournait avec des appendices fixés dans sa gorge. Nicolas Petrovitch visitait beaucoup plus souvent que son frère la chambre de Bazarov. Il serait venu tous les jours y prendre sa leçon, comme il disait, si les affaires domestiques ne l'avaient appelé ailleurs. Il ne gênait en rien le jeune naturaliste. Il s'asseyait dans un coin de la chambre, suivait attentivement ses expériences et ne se permettait que rarement de lui adresser une question discrète. Pendant le dîner et le souper, il cherchait à amener la conversation sur la physique, la géologie ou la chimie, tous les autres sujets, même les questions d'agronomie, sans parler bien entendu des affaires politiques, pouvant faire naître sinon des disputes, du moins des discussions désagréables. Kirsanov se doutait bien que l'aversion de son frère pour Bazarov n'avait point diminué. Une circonstance, peu importante d'ailleurs, vint le confirmer dans cette opinion. Le choléra commençait à se montrer dans les environs, et il avait même enlevé 2 habitants de Marino. Paul en fut assez gravement atteint une nuit. Il souffrit jusqu'au matin, sans recourir à la science de Bazarov. Lorsqu'il le vit le lendemain, et que celui-ci lui demanda pourquoi il ne l'avait pas fait appeler, il lui répondit, tout pâle encore, mais cependant peigné et rasé avec soin, « Il me semble vous avoir entendu dire que vous ne croyez pas à la médecine. » Tout cela n'empêchait point Bazarov de poursuivre sans relâche ses travaux solitaires. Il y avait pourtant dans la maison une personne à laquelle il ne s'ouvrait pas entièrement, il est vrai, mais dont la société lui plaisait. Cette personne était Fenichka. Il la rencontrait ordinairement le matin de bonne heure dans le jardin ou dans la cour. Il n'entrait jamais dans sa chambre et elle ne s'approcha qu'une seule fois de sa porte pour lui demander si elle ferait bien de baigner Mitya. Et pourtant, loin de le craindre, elle avait en lui une entière confiance et se sentait en sa présence plus libre et plus hardie que devant Nicolas Petrovitch lui-même. Il serait assez difficile d'en dire la raison. Peut-être cela tenait-il à ce qu'elle comprenait instinctivement qu'il n'y avait chez Bazarov absolument rien du gentilhomme, du barine, rien de cette espèce de supériorité qui attire et effraie tout à la fois. Il était à ses yeux un excellent docteur et un honnête homme. Sa présence ne l'empêchait point de s'occuper de son enfant, et un jour qu'elle se sentit prise subitement d'un étourdissement et d'un mal de tête, elle accepta de sa main une cuillerée de médecine. Devant Nicolas Petrovitch, elle se montrait moins familière avec Bazarov, nullement par calcul, mais par je ne sais quel sentiment de convenance. Paul lui inspirait plus que jamais de la crainte. Il semblait épier sa conduite depuis quelque temps et survenait tout à coup, comme s'il fût sorti de dessous terre, derrière le dos de Fenichka, dans son costume anglais, avec sa figure immobile, son regard pénétrant et les mains dans ses poches. « Il vous donne le frisson, » disait Fenichka à Dunyasha, et celle-ci répondait par un soupir que lui arrachait le souvenir d'un autre insensible. C'était Bazarov, qui, sans le savoir, était devenu le cruel tyran de son âme. Si Bazarov plaisait à Fenichka, ce sentiment était payé de retour. En causant avec la jeune fille, la figure de Bazarov prenait une expression nouvelle. Elle devenait plus sereine, presque douce, et en même temps une sorte de prévenance moqueuse se mêlait à sa nonchalance ordinaire. Fenichka embellissait de jour en jour. Il vient une époque pour les jeunes femmes où elles commencent subitement à se développer et à fleurir comme les roses d'été. Ce temps était venu pour Fenichka. Tout l'y disposait, même les chaleurs du mois de juillet dans lequel on venait d'entrer. Vêtue d'une légère robe blanche, elle semblait encore plus blanche et plus légère elle-même. Le soleil ne la halait pas, et la chaleur, dont il était impossible de se garantir, rougissait légèrement ses joues et ses oreilles, répandait sur tout son être une douce paresse, et donnant à ses jolis yeux la langueur d'un demi-sommeil, ajoutait comme une tendresse involontaire à ses regards. Elle ne pouvait presque point travailler, ses mains glissaient pour ainsi dire de ses genoux. À peine se sentait-elle en état de marcher, et ne cessait de se plaindre avec un affaissement comique. « Tu devrais te baigner plus souvent !» lui disait Kirsanov. Il avait fait construire une grande tente à cet usage sur un des étangs qui n'était pas encore tout à fait desséché. « Oh, Nicolas Petrovitch, mais avant d'arriver à l'étang, je serai morte, ou je mourrai en revenant. Vous savez bien qu'il n'y a pas d'ombre dans le jardin. » « C'est vrai, » répondait Kirsanov en se frottant le front. Un matin, il était près de 7 heures, Bazarov, qui revenait de la promenade, trouva Fenichka dans le bosquet de seringa, depuis longtemps défleurie, mais encore frais et vert. Elle était assise sur le banc, la tête couverte d'un mouchoir blanc. À ses côtés se trouvait un tas de roses blanches et rouges, toutes couvertes de rosée. Il lui souhaita le bonjour. « Ah, Eugène Vassilitch !» lui dit-elle en levant un peu le coin du mouchoir pour le regarder, et dans ce mouvement son bras se découvrit jusqu'au coude. « Que faites-vous là ? » répondit Bazarov en s'asseyant auprès d'elle. « Des bouquets ?» « Oui, pour mettre sur la table lorsqu'on déjeunera. Nicolas Petrovitch aime beaucoup cela. Mais on ne déjeunera pas de sitôt. Quelle quantité de fleurs! Je viens de le cueillir avant que la chaleur ne m'empêche de sortir. On ne peut respirer qu'à cette heure-ci. Je n'en peux plus de la chaleur. Je crains d'en tomber malade. Quelle idée! Donnez-moi le bras, que je vous tâte un peu le pouls. Bazarov lui prit la main, plaça le doigt sur l'artère fine et bien cachée sous une peau douce et moite, et ne se donna pas même la peine d'en compter les calmes pulsations. « Vous vivrez 100 ans, dit-il en lâchant sa main. « Ah, Dieu m'en préserve, s'écria-t-elle. « Pourquoi? Vous ne vous souciez donc pas de vivre longtemps? 100 ans. Ma grand-mère a vécu jusqu'à 80 ans, et c'était un vrai martyr. Toute noire, sourde, contrefaite, toujours toussant, vraiment à charge à elle-même. Est-ce vivre, cela? Il vaut donc mieux être jeune? Je le crois bien. Et pourquoi? Dites-moi ça. Comment? Mais me voilà, par exemple. Je suis encore jeune, et je peux tout faire. Je vais, je viens, je me sers, et n'ai besoin de personne. Que faut-il de plus? Quant à moi, que je sois jeune ou vieux, peu m'importe, cela m'est égal. Comment pouvez-vous dire que cela vous est égal? Il est impossible que vous le pensiez. Je vous en fais juge, Fedossia Nikolaïevna. À quoi me sert la jeunesse? Je vis seul, en vrai orphelin. Cela dépend de vous. C'est ce qui vous trompe. Personne ne veut s'apitoyer sur moi. Fenichka le regarda à la dérobée, mais ne lui répondit pas. Quel livre avez-vous là? Lui demanda-t-elle quelques instants après. C'est un ouvrage savant, difficile à comprendre. Vous étudiez toujours. Cela ne vous ennuie donc pas? Vous devriez pourtant tout savoir déjà, il me semble. Il paraît que non. Essayez donc de lire un peu dans ce livre. Mais je n'y comprendrai rien. Est-ce du russe? Demanda Fenichka en prenant de ses deux mains le volume à épaisse reliure que tenait Bazarov. Comme il est gros! C'est bien du russe. Peu importe, je n'y comprendrai rien. Je le sais bien, mais je voudrais vous voir lire. Quand vous lisez, le bout de votre nez remue très gentiment. Fenichka, qui essayait de déchiffrer à voix basse un paragraphe traitant de la créosote, se mit à rire et repoussa le livre qui glissa par terre. « J'aime aussi votre rire, » reprit Bazarov. « Finissez donc. J'aime à vous entendre parler. » On dirait le murmure d'un petit ruisseau. Fenichka détourna la tête. « Comme vous êtes drôle, » dit-elle en promenant ses doigts sur les fleurs. « Pourquoi m'écouteriez-vous? Vous avez dû causer avec des dames si instruites. » « Ah, Fedossia Nikolaïevna, croyez-moi, toutes les dames instruites de la terre ne valent pas seulement votre coude. » « Vous ne savez qu'inventer, » dit Fenichka à voix basse et en se serrant les bras contre le corps. Bazarov releva le livre. « C'est un livre de médecine, » dit-il. « Pourquoi l'avez-vous jeté par terre ?»« Un livre de médecine ?» répéta Fenichka en se tournant vers lui. « Vous rappelez-vous que vous m'avez donné des gouttes ? Eh bien, depuis ce temps-là, Mitya dort comme un charme. Combien je vous suis reconnaissante. Vous êtes si bon, vrai. »« À la rigueur, tout médecin doit être payé, » reprit Bazarov en souriant. Les médecins, vous devez le savoir, sont des gens intéressés. » Fenichka regarda Bazarov. Le reflet blanchâtre qui éclairait le haut de sa figure donnait à ses yeux une teinte encore plus foncée. Elle ne savait s'il parlait sérieusement ou s'il plaisantait. « Avec plaisir, » lui répondit-elle, « mais il faudrait en parler à Nicolas Petrovitch. » « Vous croyez donc que je veux de l'argent ?» reprit Bazarov. « Non, ce n'est pas de l'argent que je vous demande. » « Quoi donc ?»« Quoi ?» répéta Bazarov. « Devinez. »« Est-ce que je sais ?»« Dans ce cas, je vais vous le dire. Je voudrais avoir une de ces roses. » Fenichka se mit à rire de nouveau et frappa même des mains tant la demande de Bazarov lui parut singulière. Elle se sentait très flattée en même temps. Bazarov la regardait fixement. « Volontiers, » dit-elle enfin, et se penchant sur le banc, elle se mit à choisir une rose. « Est-ce une rouge ou une blanche que vous voulez ?»« Une rouge, et pas trop grande. » Fenichka se redressa. « Tenez, lui dit-elle, mais elle retira aussitôt la main qu'elle venait de tendre, se mordit les lèvres, jeta les yeux du côté de l'entrée du bosquet et prêta l'oreille. « Qu'avez-vous ? » demanda Bazarov. « Est-ce Nicolas Petrovitch ? » ?»« Non, il est dans les champs. Et d'ailleurs, je ne le crains pas. Mais Paul Petrovitch, je croyais... Comment ? Pourquoi craignez-vous Paul Petrovitch ? » ?»« Il me fait peur. Ce n'est pas qu'il me parle, non ? Mais il me regarde d'un air si singulier. Au reste, vous ne l'aimez pas non plus. Je me rappelle que dans le temps, vous vous disputiez toujours avec lui. Je ne savais pas de quoi il s'agissait, mais je comprenais que vous le retourniez joliment, comme ça, comme ça. » Fenichka montra avec les mains comment, suivant elle, Bazarov retournait Paul Petrovitch. Bazarov sourit. « Et s'il avait eu l'air de l'emporter sur moi, lui, dit-il, vous auriez pris ma défense ? Est-ce que je pourrais vous défendre ? Mais on ne vient pas à bout de vous si facilement que ça. Vous croyez ? Eh bien, moi, je connais une main qui pourrait me renverser d'un doigt. Quelle est cette main ? Comme si vous ne le saviez pas. Sentez la rose que vous m'avez donnée. Elle sent bien bon. » Fenichka tendit le cou et approcha sa figure de la fleur. Le mouchoir glissa de sa tête sur son épaule et laissa à découvert une épaisse chevelure noire, brillante et un peu en désordre. « Attendez, je veux la sentir avec vous, » dit Bazarov, et se baissant, il baisa avec force les lèvres entrouvertes de la jeune fille. Elle tressaillit et appuya ses deux mains contre la poitrine de Bazarov. Mais elle les appuya faiblement et il put lui donner un second baiser. Une toux sèche se fit entendre derrière le feuillage. Fenichka se jeta précipitamment à l'autre extrémité du banc. Paul se montra, fit un léger salut, dit lentement, mais avec une expression de tristesse amère, « Vous êtes ici ?» et s'éloigna. Fenichka ramassa aussitôt ses roses et sortit du bosquet. « C'est bien mal à vous, Eugène Vassilitch, » murmura-t-elle à voix basse, en s'éloignant. Bazarov se rappela une scène du même genre et encore récente. Ce souvenir réveilla dans son cœur une sorte de honte et presque du mépris pour lui-même. Mais il secoua aussitôt la tête, se félicita ironiquement de marcher sur les traces de Céladon et regagna sa chambre. Quant à Paul, il sortit du jardin et se dirigea à pas lents du côté des bois. Il fut absent assez longtemps, et lorsqu'il revint pour le déjeuner, Kirsanov lui demanda avec inquiétude s'il se portait bien, tant sa figure s'était assombrie. « Tu sais que je suis sujet à des épanchements de bile, » lui répondit tranquillement Paul.